vendredi 29 août 2025. Plaisir de vous retrouver à 12h après ce moment de prière et de recueillement avec Longelus. On va passer une heure ensemble, l'heure peut-être pour vous du déjeuner. Eh bien, ça nous fait un grand plaisir de vous retrouver à ce moment-là. Alors, dans quelques instants, au sommaire de ce magazine, la chronique verte de Benoît Guillard va nous faire découvrir une structure qui s'appelle Ecogaz et qui se trouve dans le département des Hautes-Pyrénées. Et puis, on parlera aussi de littérature, parce qu'on aime bien le faire sur Radio Présence. Et nous parlerons aujourd'hui de Françoise Sagan. Et puis Anne-Rose Jankovic nous parlera, abordera un sujet qui est lourd souvent pour des familles, puisqu'on parlera de la maladie d'Alzheimer en sa compagnie. Voilà un sujet douloureux, mais qu'il faut aussi aborder avec souvent espoir. Donc on écoutera l'entretien de Anne-Rose Jankovic d'ici quelques minutes. De l'actu, il en sera question à 12h30 avec le journal régional de la mi-journée. Et puis à 13h, on retrouvera bien sûr toute la rédaction française de Radio Vatican. Avant de parler et de découvrir une très belle structure qui s'appelle Ecogaz grâce à la chronique verte de Benoît Guillard, on écoute un peu de musique et on écoute les Frangines avec Aïeva.
On ne prie pas les mêmes dieux, on ne vit pas sous les mêmes cieux, on ne chante pas les mêmes refrains, on a chacun son quotidien, on n'a pas grandi côte à côte, on n'a pas tous la même cote. On n'a pas tous la même chance quand on y pense. Et c'est pas parce qu'on se ressemble pas, non c'est pas ça qui nous éloignera. Et c'est pas parce qu'on se ressemble pas, non c'est pas ça qui nous éloignera. Aïe 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 aïe. Sous Mars ou Saturne, mais au fond que vaut la richesse sans la tendresse. On n'a pas la même opinion, pas toujours la même direction, mais qu'on soit pauvre ou qu'on soit roi, on finira au même endroit. Et c'est pas parce qu'on se ressemble pas, non c'est pas ça qui nous éloignera. Et c'est pas parce qu'on se ressemble pas, non c'est pas ça qui nous éloignera. Aïe aïe. Être les mêmes pour s'aimer, ah ce serait tellement dommage d'effacer qui l'on est pour se donner. On n'a pas besoin d'être les mêmes pour s'aimer, ah ce serait tellement dommage d'effacer qui l'on est pour se donner. C'est pas parce qu'on se ressemble pas, non c'est pas ça qui nous éloignera. Et c'est pas parce qu'on se ressemble pas, non c'est pas ça qui nous éloignera. Aïe aïe.
Présence à Super Bannière 94.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine à nouveau pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de me rendre à Ibos. Ibos, juste à côté de Tarbes, hein. Et le choix que j'ai fait, c'est de mettre à la lumière une femme qui est connue dans le territoire, qui est force d'initiative et puis d'innovation, qui s'appelle Sophie Villard. Et donc, Sophie Villard, elle a une compétence experte importante autour de tout ce qui concerne la méthanisation. Et donc, je trouvais ça très intéressant de la rencontrer, de vous faire, chers auditeurs, rencontrer Sophie Villard pour parler justement de ces enjeux très importants dans ce qu'est le réchauffement climatique, de la méthanisation. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Peut-être simplement, on va vous demander de vous présenter pour les auditeurs et puis nous expliquer un petit peu toutes ces belles choses que vous faites depuis un petit moment maintenant.
Oui, un petit moment, une 30 ou 40 années professionnelles, donc au service des projets et du développement agricole. Dans une première partie de ma vie, ça s'est passé à l'étranger, dans les pays du Sud, entre l'Afrique centrale et Madagascar. Et dans un deuxième temps, je suis arrivée dans les Hautes-Pyrénées, à la Chambre d'agriculture, et depuis, je travaille donc avec les agriculteurs de ce département. Dans les années 2000, j'étais à Lourdes, au sein de la COP des Gaves, donc pour valoriser les productions locales et permettre aux agriculteurs de vendre en direct leurs produits. Et depuis maintenant une dizaine d'années, j'ai créé une activité donc autour de la méthanisation agricole.
Donc peut-être redire à nos auditeurs un petit peu les principes, en toute simplicité, de la méthanisation et les enjeux par rapport notamment à l'agriculture des Hautes-Pyrénées.
Alors le principe de la méthanisation est assez simple. Il faut imaginer un gros estomac dans lequel on va intégrer des résidus de culture, des fumiers et des lisiers. Et grâce à une réaction anaérobie, donc ce mélange qui va être chauffé pendant 30, 40 ou 50 jours, va permettre donc la production de biométhane, qui une fois épuré, est donc réintégré dans les réseaux de gaz de ville, et ensuite est distribué donc dans toutes les maisons, comme l'est traditionnellement le gaz de ville. C'est exactement la même molécule en fait que le gaz naturel, qui est un gaz fossile, donc issu de l'épuration du pétrole.
Effectivement, et puis les enjeux avec la crise énergétique qu'on a connue depuis quelques mois, plusieurs mois maintenant, les enjeux c'était aussi d'avoir recours à des ressources locales pour pouvoir produire de l'énergie et de l'énergie renouvelable, et c'est l'idée aussi de la méthanisation, c'est ça, hein ?
Oui, c'est bien l'idée de la méthanisation, mais avec une autre richesse. La première richesse, c'est donc le gaz qu'on va intégrer dans les réseaux, et là on a un gaz qui est renouvelable, avec un bilan carbone qui est équilibré, puisqu'en fait, ce CH4 est issu de... arrive donc des plantes, les plantes qui ont été mangées par les vaches qui ont fait des fumiers, mais on reste du coup dans un... on ne va pas chercher du carbone dans le sol, on profite du carbone qui est dans notre environnement. Le deuxième intérêt, c'est qu'après la méthanisation, on va récupérer donc une sorte de boue qui reste au fond du digesteur. Et ce digestat, enfin cette boue qu'on appelle digestat, va être répandue sur les champs comme auraient pu l'être les lisiers et les fumiers. L'avantage de ce digestat, c'est qu'il a plus d'odeur, contrairement aux lisiers et aux fumiers. Et en plus, il a une composition qui est constante et on a une bien meilleure maîtrise de l'azote et des produits fertilisants. Ce qui fait que derrière, par l'utilisation de ce digestat, on peut améliorer les pratiques agronomiques avec une bien meilleure maîtrise de la fertilisation, et on peut du coup réduire énormément. On dit qu'entre 50 et 90% des intrants minéraux peuvent être supprimés sur l'exploitation grâce à l'utilisation de ce digestat. Le troisième grand intérêt de la méthanisation, c'est que du coup on produit du gaz sur notre territoire. Le biogaz devient donc une production agricole. Et ce biogaz peut être utilisé pour la mobilité. Or, le gaz dans la mobilité, c'est des véhicules qui font beaucoup moins de bruit que des véhicules diesel traditionnels. Et c'est surtout des véhicules qui, du coup, ne vont pas émettre beaucoup moins de CO2. Et s'ils émettent du CO2, c'est donc un CO2 d'origine environnementale et non pas fossile.
Alors, si je comprends bien, c'est assez extraordinaire ce que vous nous expliquez, puisque en fait, on comprend que finalement, ce qui pourrait être un déchet, au vu d'une exploitation agricole dans le modèle traditionnel, devient en fait une richesse à toute l'humanité, et en particulier pour les habitants de ce territoire, puisque alors que c'était vécu notamment par les habitants du territoire comme étant quelque chose qui sentait mauvais, etc., finalement, ces lisiers, ces fumiers, ils peuvent devenir un petit peu de l'or, quoi.
Et alors j'irai même encore plus loin que ça. C'est une filière qui est complètement magique et qui est d'autant plus magique sur nos territoires ruraux qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles filières. Les nouvelles filières aujourd'hui très technologiques n'arrivent pas beaucoup sur nos territoires. Or là, on se retrouve, on part d'une production agricole, on va produire grâce à un procédé un peu industriel, donc du gaz, et puis derrière ce gaz, on va l'utiliser soit pour alimenter l'hôpital, les maisons, ou alors alimenter nos voitures. Et donc, autour de cette filière, on réunit tout le monde. On réunit les agriculteurs d'un côté qui produisent, on va réunir les techniciens, que ce soit des soudeurs, que ce soit des techniciens de maintenance, que ce soit des gens qui interviennent donc dans les industries. Et puis, à l'autre bout, eh ben, on réunit tous les citoyens et on réunit également tous ceux qui sont dans le transport, tous ceux qui roulent, c'est-à-dire tout le monde, quoi.
Je vais faire assez rapidement un petit pour bien comprendre que lorsqu'on a parlé, notamment dans l'émission, on a parlé des projets alimentaires territoriaux, où on mettait tous les acteurs autour sur les enjeux de l'alimentation, mais là, sur l'enjeu de l'énergie, c'est un peu la même démarche, c'est le même processus, et c'est les mêmes enjeux sociaux aussi, donc ça c'est assez formidable. Et vous, Sophie, en fait, vous portez cette ingénierie, cette expertise, et vous essayez, si j'ai bien compris, de développer cette expertise auprès des acteurs susceptibles d'être intéressés.
Alors, on essaye de développer cette expertise pour pouvoir développer un certain nombre de projets en rajoutant juste un élément, c'est que non seulement on peut réunir tout le monde autour de la table, mais puisque aujourd'hui l'État a défini des prix garantis d'achat du gaz, on se retrouve donc pas dans une compétition entre les uns et les autres. On peut être tous autour de la table, il n'y a pas de question véritablement d'argent, même s'il y a des grosses sommes en cause. Et donc, on peut tous parler de manière concertée et puis équilibrée.
Et alors, si j'ai bien compris les explications que j'ai eu la précaution de prendre avant qu'on se rencontre, en plus, vous y mettez aussi de l'économie sociale et solidaire, parce que derrière ces réflexions, en fait, les acteurs de développement, ce sont aussi des coopératives, en fait.
Oui, on a essayé de bâtir donc avec la coopérative Ecogaz, qui aujourd'hui est une structure gérée par les agriculteurs, mais dont l'objectif est de mettre autour de la table l'ensemble des partenaires de la filière pour pouvoir développer des projets et faire connaître le biogaz à tout un chacun. Donc Ecogaz porte aujourd'hui donc la maîtrise d'ouvrage pour le développement d'unités de méthanisation. Et on a essayé de bâtir un modèle un petit peu original en partant du constat que les agriculteurs n'étaient pas forcément en mesure d'investir des grosses sommes dans des unités de méthanisation et ne maîtrisaient pas non plus ces techniques industrielles qui ne sont pas de leur métier, quoi, qui sont particulières. Donc en fait, la coopérative Ecogaz assure la maîtrise d'ouvrage pour faire émerger des projets sur des territoires. Du coup, en apportant la compétence nécessaire pour la définition des lieux où ces installations peuvent se faire, la conception technique, le montage financier. Et lorsque tout ça est prêt et que les unités, quelque part, sont prêtes à être construites, eh ben, entre-temps, les agriculteurs se sont organisés et ils sont en mesure, du coup, de bâtir une coopérative agricole qui va être propriétaire de l'unité de méthanisation et qui va la gérer dans le temps. Et Ecogaz ne disparaît pas à ce moment-là, puisque la coopérative Ecogaz continue à apporter une expertise sur toutes les questions qui dépassent, je dirais, que le secteur agricole, c'est-à-dire les mises aux normes industrielles, les problèmes de respect de la législation, les problèmes de maintenance industrielle, etc. Et cette coopérative Ecogaz va être aussi garante à la fois de l'ancrage avec le territoire, du lien avec les collectivités locales, du lien avec tous les gens qui sont sur le territoire, et va être garante aussi de la solidarité entre différentes unités de méthanisation pour pouvoir échanger des machines, des équipements, éventuellement des moyens, des compétences, etc. Donc en fait, on bâtit un environnement coopératif. Au départ, en partant du constat que la méthanisation est difficile puisque c'est un secteur qui n'appartient pas à l'agriculture et surtout qu'elle demande énormément de moyens financiers pour investir. Or, l'agriculture aujourd'hui dans nos départements n'a plus ou n'a pas ces moyens financiers. Mais pourtant, elle a besoin de la méthanisation pour compléter des revenus, pour traiter des effluents qui sont quand même aujourd'hui, qui posent des contraintes sur des territoires qui sont ruraux et urbains. Et puis, elle a besoin aussi de cette méthanisation qui est une opportunité pour améliorer les pratiques agricoles et limiter les entrains minéraux et se préparer à la transition environnementale, puisque par des meilleures fertilisations, on répondra beaucoup mieux aux enjeux environnementaux, au manque d'eau à certaines périodes, à trop d'eau à d'autres périodes. On sera beaucoup plus en mesure de pouvoir encaisser ces variations.
Moi, j'ai tout compris. Hein. Ça veut dire que vous, Sophie, vous êtes un maillon clé de l'avenir de l'agriculture, puisque effectivement, on découvre dans vos propos des enjeux stratégiques considérables autour de l'avenir de nos exploitations agricoles. Donc, je mesure encore plus que jamais combien il est important aussi d'avoir des acteurs comme vous, des compétences expertes pour permettre justement de créer de la valeur ajoutée différemment tout en restant dans le cœur de son métier, chacun à sa place, hein, c'est ça. Hein.
Tout à fait, mais en fait, on peut y arriver que si on est nombreux autour de la table, puisque ces installations imposent une multitude de compétences et une multitude de moyens. Et d'ailleurs, je profite de cette opportunité. La coopérative aujourd'hui lance un appel pour des gens qui auraient envie de participer au projet. Et on lance un appel pour ceux qui ont envie de mettre un petit peu d'argent dans ce projet, en sachant que ça sera de l'argent qui sera mis dans les projets comme on pourrait le mettre dans une banque, puisque c'est de l'argent qui rapportera un petit peu des intérêts. Et je dirais qu'à partir de 1 000 euros, tout le monde peut apporter sa part à l'édifice et participer à ce projet, en sachant que du coup, les gens seront véritablement acteurs de la coopérative, puisque du coup, ils rentrent dans l'actionnariat de la coopérative.
Donc Sophie, alors ça c'est quand même une information très importante, c'est-à-dire que si on habite sur ce territoire, on veut être acteur de développement, on est convaincu que la dimension que vous portez est essentielle, plutôt que laisser dormir son argent sur des épargnes, faire vivre cet argent dans les investissements et dans le développement local, on peut le faire avec la coopérative. Donc peut-être laisser un contact, soit internet, soit un contact téléphonique pour les auditeurs qui seraient intéressés.
Un contact internet, vous pouvez aller sur le site donc de Ecogaz. Ecogaz, c'est Ecaogaz, avec l'accent bigourdant. Donc c'est la vache qui produit du gaz. Je sais pas si je peux donner un numéro de téléphone.
Oui.
Bon, moi je peux donner mon numéro de téléphone, donc le 06 70 71 28 87. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que en fait tout le monde a besoin de tout le monde, c'est-à-dire que tout seul les agriculteurs aujourd'hui n'auront pas les moyens d'apporter les fonds propres qu'exigent les banques pour pouvoir leur prêter de l'argent. Et inversement, en travaillant à ça, ils permettent d'améliorer notre environnement parce qu'on n'aura plus ces odeurs de fumier et de lisier au moment des épandages. Et on sait qu'on va du coup tous ensemble vers des pratiques qui sont vertueuses pour nous tous, quoi. Et c'est vrai que la production de gaz, il n'y a pas que les agriculteurs qui sont concernés. Je dirais, on est tous intéressés par cette énergie, quoi.
Merci infiniment, Sophie. On arrive à la fin de cette émission. Donc, chers auditeurs, si un jour vous avez la curiosité de venir jusqu'à Ibos, en fait, la structure est juste à côté d'AgriVision, donc derrière le Méridien.
Oui.
Hein, donc, il y a d'ailleurs une station qui distribue du GNV.
Oui.
Il y a des poids lourds qui viennent charger en GNV pour rouler. Hein, donc, n'hésitez pas. Si elle est là, vous lui venez dire c'est super ce que vous faites. Et tout simplement, et ça l'encouragera. Merci beaucoup, Sophie.
Merci beaucoup.
Je pense que vous avez ouvert des vocations nouvelles et puis des ambitions nouvelles à tous nos auditeurs. Et puis, écoutez, plein de réussite pour votre projet et merci encore. Au revoir, à bientôt.
Au revoir, merci beaucoup et à bientôt. Et bienvenue sur la station d'Ibos, qui est aussi une société en économie circulaire avec des acteurs locaux. Et si vous passez par là, je vous expliquerai tout ça et je vous ferai visiter nos installations.
Merci encore. Au revoir, chers auditeurs.
La chronique verte.
Et on apprend plein de choses avec Benoît Guillard et la chronique verte. Voilà, je connaissais pas cette structure. Pourtant, elle est dans les Hautes-Pyrénées, à Ibos, derrière donc le Méridien. Voilà, vous l'avez entendu. L'invitation est lancée. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rentrer en contact donc avec elle. Dans quelques instants, on parlera d'un auteur, d'une auteure, une autrice qui s'appelle Françoise Sagan. Mais avant tout cela, je vous propose de partir un peu en musique, hein, et puis on se retrouve pour parler de littérature d'ici quelques instants.
Jour après jour, quand ces accords en moi se fondent, c'est ma plus belle histoire d'amour. Elle est restée en moi pour toujours.
Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Je vis pour elle depuis toujours. Qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre, elle me désire après l'amour. Un arc-en-ciel dans notre chambre.
Vous avez peut-être reconnu la voix de Kenji Chirac avec la sublime voix d'Andrea Bocelli avec cette reprise « Je vis pour elle » à l'instant sur Présence. Nouveauté.
L'Occitanie, un doux nom qui a inspiré nombre d'écrivains célèbres depuis des siècles. Séduit par ses paysages, son art de vivre, son histoire, ses habitants. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Françoise Sagan. À 18 ans, Françoise Sagan publie son premier roman, Bonjour Tristesse, qui lui apporte la célébrité et la propulse dans le cénacle littéraire parisien. François Mauriac, alors chroniqueur au Figaro, la double ainsi. Ce prix des critiques, décerné à un charmant petit monstre de 18 ans, dont le mérite littéraire éclate dès la première page et n'est pas discutable. Son talent littéraire s'exprimera aussi dans des pièces de théâtre, comme parolière de chansons et dans l'écriture de scénarios. Mais c'est ici la mémorialiste qui nous fait partager avec nostalgie son amour des causes du Quercy où sont ses racines. Cajarc est mon enfance, un domaine exquis auquel il ne faut pas toucher. Les causes pour moi, c'est la chaleur torride, le désert, des kilomètres et des kilomètres de collines où seules émergent encore des ruines de hameaux que la soif a vidés. Les causes, c'est un berger ou une bergère qui passe ses journées solitaires avec ses moutons et dont le visage est gris, de la couleur de la pierre, à force de solitude. C'est aussi les fermes où l'on débarque les soirs de chasse et où l'on boit un vin nouveau, généralement imbuvable. C'est l'extraordinaire tranquillité d'esprit, l'extraordinaire et la fréquente gaieté de ces solitaires perpétuels. Les causes, c'est les mouches qui se pose sur les naseaux du vieux cheval que je monte et qui n'en peut plus de chaleur, lui aussi. Les causes, c'est l'impression fantastique, rassurante que la France est vide. En bas des causes, c'est le village qui s'appelle Cajarc, où mes arrière-arrière-grand-mères et ma mère sont nées. Le même village qui fut à l'honneur il y a 10 ans lorsqu'un futur président de la République vint s'y installer et qui a depuis retrouvé son anonymat. À présent que je suis libre d'y venir et d'y rester et que le mot « vacances » n'a plus cette résonance d'obligation, je reviens souvent dans ce pays et je l'admire. Il y a ces causes interminables qui passent le soir du rose au mauve, puis au bleu nuit. Il y a cette vallée si verte, coupée d'un fleuve si gris, ces cyprès bordant les ruines, ces maisons aveugles entourées de murs de pierres empilées que personne ne respecte. Il y a la nonchalance, la tolérance de ses habitants. Il y a l'esquive étonnante de toute cette région devant le tourisme, la télévision, les autoroutes et l'ambition. Il faut des heures et des heures pour y parvenir. Et si l'on n'y est pas né, l'on s'y ennuie. Les quelques atrocités apportées par le progrès ou les étrangers sont vite absorbées, jetées ou amalgamées au reste. Ce pays n'a pas changé. Je n'y retrouve pas une enfance détériorée, j'y retrouve une enfance exemplaire qui introduit dans ma vie une sorte de temps au ralenti, le même temps au ralenti que j'y passais jadis, un temps sans cassure, sans brisure et sans bruit. À travers le regard et les mots de Françoise Sagan, inspirée par notre belle Occitanie, nous avons pu apprécier son talent et son émerveillement devant notre beau patrimoine. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles d'Occitanie » inspirant tous mes récits.
Et merci également à Catherine Albrecht et bien sûr de nous faire partager voilà ces découvertes littéraires et cette analyse qu'elle fait de les auteurs tout simplement de notre région. On va continuer en musique tranquillement avant de retrouver le journal de la mi-journée présenté par Carla Ponce d'ici quelques instants. Et c'est en compagnie du chanteur Grégoire que nous poursuivons et cette chanson « Toi plus moi ». Bon appétit si vous êtes à table, 12h passées de 28 minutes.
Toi plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. À deux, à mille, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez. tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle.
Elle est belle cette chanson du chanteur Grégoire, hein. C'est avec cette chanson d'ailleurs qu'il s'est fait vraiment connaître et qu'il a eu du succès. C'est Toi et plus moi sur Présence. On continue tout de suite avec l'information, 12h passé de 31 minutes, on retrouve Carla Ponce. Bonjour Carla.
Bonjour à tous. À Pauillac, dans le Gers, l'église de Saint-Aurin a été fermée par arrêté municipal après la chute de plaques de plâtre depuis la voûte. L'édifice présente d'importants signes de fragilité, avec de nouvelles fissures apparues au fil des semaines. Donc classée au patrimoine, l'église ne bénéficie d'aucune aide spécifique. La commune attend désormais l'expertise d'un artisan pour évaluer les travaux, dont le coût pourrait s'avérer difficile à assumer. Le quartier d'Enclade à Lourdes accueillera prochainement une machine d'imagerie par résonance magnétique, plus communément appelée IRM, autorisée par l'Agence régionale de santé. L'équipement sera installé dans un bâtiment construit à côté du centre de radiologie Paulo Coelho. Actuellement, les habitants doivent se rendre à Tarbes pour passer ce type d'examen. La mise en service est prévue pour l'été 2026. Cet investissement privé s'accompagnera d'un partenariat public-privé afin de garantir l'accès aux patients du territoire. Face à la saturation du marché de la seconde main, plusieurs communes du Lot accueilleront en septembre et octobre des collectes exceptionnelles de vêtements, chaussures et linge de maison. L'objectif, offrir aux habitants une solution de proximité et limiter les dépôts dans les ordures ménagères. Les textiles seront ensuite triés et valorisés selon leur état entre réemploi et recyclage. L'expérimentation du port de l'uniforme se poursuit pour une deuxième année dans deux écoles publiques d'une commune près de Toulouse. Depuis la rentrée 2024, 400 élèves portent une tenue unique composée de polo et de sweatshirt. L'objectif, favoriser l'égalité entre élèves tout en simplifiant le quotidien des familles avec quelques ajustements pour améliorer le confort et l'adaptation des vêtements. Cet été, le château de Foix a vu sa fréquentation grimper de plus de 20% en juillet par rapport à l'an dernier, frôlant son record historique. Grâce à des visites immersives, des ateliers animés et des événements estivaux complets, le site attire un public toujours plus large et intergénérationnel. Les travaux de modernisation, notamment l'installation de nouveaux ascenseurs et sanitaires, amélioreront bientôt l'accessibilité pour tous. Et enfin, à seulement 9 ans, Samuel, alias Samart, devient sans doute le plus jeune artiste à exposer dans le Lot-et-Garonne. Ses 76 dessins, réalisés principalement au BIC, seront présentés les 30 et 31 août à la Galerie 110 d'Agen. L'exposition, initiée par le jeune garçon lui-même, met en avant son imagination débordante et ses personnages expressifs, offrant un espace créatif pour encourager d'autres enfants à partager leurs talents.
Un grand merci à Carla Ponce de l'école de journalisme de Blagnac qui passe tranquillement tout cet été à notre compagnie. On remercie d'ailleurs tous ces jeunes de ces écoles de journalisme qui sont partenaires avec Radio Présence. On va parler d'un sujet maintenant avec Anne-Rose Jankovic, un sujet que on connaît peut-être chacun entre nous, quelqu'un qui est touché par cette maladie. Elle fait peur, hein, elle s'appelle la maladie d'Alzheimer. C'est le sujet du jour que je propose de développer avec nous, donc Anne-Rose Jankovic et son invité.
Présence dans la cité mariale, 96.
Bonjour Marc Lucien.
Oui, bonjour.
Marc, depuis un peu plus de 2 ans, vous publiez sur les réseaux sociaux des vidéos que vous réalisez avec vos parents, Nono et Nona. Nono est votre papa, il est âgé de 96 ans. Nona est votre maman, elle est âgée de 89 ans. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Dans ces vidéos, on voit des scènes de la vie de tous les jours, mais la vie avec la maladie d'Alzheimer. Alors si on regarde dans un dictionnaire la définition de cette maladie, on nous dit simplement que c'est une maladie neurodégénérative qui touche 1 400 000 personnes en France. Pour vous, Marc, la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est une maladie tout d'abord terrible pour les familles qui sont touchées par cette pathologie. En fait, maman ne me reconnaît plus. Elle a parfois des souvenirs lointains qui rejaillissent. Mais le souvenir à l'instant T s'estompe immédiatement. Je vous donne un exemple. Si maman a mangé, je lui retire son plat. Moins de 30 secondes après, elle va me dire « j'ai faim, il faut que je mange ».
Ça, c'est le donc, premier symptôme. C'est le premier symptôme des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est ne plus se souvenir, ne perdre cette mémoire immédiate.
Perdre cette mémoire immédiate et avoir une mémoire lointaine assez confuse. Alors après, il y a plein d'autres plein d'autres symptômes qui caractérisent cette maladie, comme le fait de toujours avoir faim, d'avoir envie de dormir constamment. Mais le plus pénible pour les aidants que nous sommes, c'est le fait de ne pas reconnaître la personne et de ne pas se souvenir de l'instant présent.
Votre maman, elle a commencé à être malade quand ? Depuis combien de temps ? Enfin, quand est-ce que vous avez reconnu les symptômes et que vous vous êtes dit, là voilà, on est dans le cas de figure d'une maladie d'Alzheimer ?
On a commencé à reconnaître les symptômes le jour où on posait des questions très simples en allant chez les parents à maman en lui disant, qu'est-ce que tu as mangé à midi ? Qu'est-ce que vous avez fait ce matin ? Et systématiquement, elle se retournait en disant, Édouard, qu'est-ce que j'ai mangé ? Oui, c'était bon. Elle répondait toujours à côté de la question précise. Et donc, on a laissé passer quelques temps. Et puis, à un moment donné, on a voulu confirmer cette maladie. Et nous sommes partis voir un neurologue qui lui a fait faire un test et qui a bien diagnostiqué Alzheimer.
Alors, ce qu'il faut dire pour les auditeurs, c'est que vous aviez déjà eu une expérience, si je puis dire, puisque quelques temps avant, vous vous étiez occupé de votre belle-mère qui, elle aussi, avait la maladie d'Alzheimer.
Exactement. On a gardé au décès de mon beau-père ma belle-mère pendant un peu plus de 13 ans à la maison. La maladie d'Alzheimer s'est déclarée. J'ai commencé à comprendre et à analyser cette maladie au quotidien parce qu'on s'en est occupé avec mon épouse avant que ma belle-mère ne termine ses jours dans son pays en Tunisie.
Alors, votre maman, vous la voyez, on imagine toujours comme votre maman, pourtant quelquefois elle ne vous reconnaît pas comme étant son fils. Alors ça, on imagine quand même que c'est assez brutal à se prendre dans la figure, si vous me permettez cette expression. Et pourtant sur les vidéos quand même, Marc, on vous voit tout le temps souriant, on vous entend rire beaucoup. Comment vous avez fait et comment vous faites pour dire, ok, j'accepte, en fait, c'est toujours maman, mais c'est maman avec Alzheimer. Comment on fait ? Quelles sont les armes pour se dire, j'accepte et puis je reste là et puis j'avance avec elle ?
Alors, avant de répondre à votre question, je vais d'abord vous faire un préambule. Ma nature et celle de ma maman, c'est d'être joyeux. J'ai été élevé dans un foyer où le sourire était toujours présent et donc je prends les choses avec bonne humeur. Parce que quand je me lève le matin, je suis un homme heureux. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est très difficile pour un aidant de voir sa mère, de voir l'état de sa maman se dégrader, de voir sa maman ne plus vous reconnaître, de la voir avoir des gestes brusques avec vous. Mm-hmm. Et le seul moyen d'y remédier, c'est de faire ce que j'appelle le deuil blanc. Le deuil blanc, c'est en fait une prise de conscience personnelle qui dit la chose suivante. À partir de maintenant, la personne qui est en face de moi n'est plus la personne que j'ai connue, que j'ai aimée. Je dois en faire mon deuil. Donc le seul moyen de l'aider, c'est de ne pas faire fi de tout ce qu'elle peut me dire, de tout ce qu'elle peut faire. Et c'est une démarche personnelle que ne réussissent pas à faire tous les aidants. Et justement, dans les messages que j'essaye de transmettre sur les différents réseaux sociaux, c'est celui-ci aux aidants. Faites votre deuil blanc. C'est le seul moyen que vous ayez de pouvoir aider convenablement la personne que vous aimez.
Ça veut dire que pour vous, il y a toujours ce souvenir de cette maman donc joyeuse et puis qui n'empêche pas qu'aujourd'hui, vous la voyez toujours comme votre maman, mais que vous acceptez que parfois, effectivement, on le voit dans certaines vidéos, elle puisse avoir des paroles qui sont assez, parfois même agressives.
Oui, et encore, vous savez, les vidéos... Je n'ai pas toujours mon téléphone sur moi pour filmer.
Oui, on voit
donc
pas tout.
Les vidéos, c'est un instant T, mais il y a des moments beaucoup plus compliqués. Le plus compliqué de tous étant celui où tous les matins, quand je vais la réveiller, que je la serre dans mes bras, elle me dit qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites chez moi. Donc ça, c'est pas simple à vivre, mais personnellement, je réussis à le vivre parce que j'ai fait ce deuil blanc.
Ça veut dire que vous ne craquez jamais?
Jusqu'à présent, je n'ai jamais craqué. Je ne vous dis pas que demain, ce ne sera pas le cas, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais craqué.
Alors, il y a plusieurs points encore que je voudrais aborder avec vous. Marc, je voudrais qu'on parle de la pudeur, du rapport au corps. Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer change dans les personnes qui en souffrent et chez votre maman? Qu'est-ce que ça change dans leur rapport à leur corps et à la pudeur? parce que en fait vous êtes obligé d'intervenir pour les gestes du quotidien, y compris celui d'aller au WC, de faire sa toilette. C'est vous qui prenez ça en charge, Marc. Alors comment elle réagit à ça?
Alors, je prends en charge, ou mon épouse le prend en charge, oui, tous les matins et tous les soirs, mais à 90%, c'est moi. Au début, c'était un petit peu compliqué, pas pour moi, parce que j'avais fait ces gestes-là avec ma belle-mère, donc ça ne me gênait absolument pas, mais pour maman, ça le reste encore aujourd'hui. Chaque matin, quand je dois, il faut parfois rentrer dans les détails pour expliquer, chaque matin, quand j'amène maman aux toilettes et que je lui ôte sa protection, eh bien, chaque matin, elle me dit « qu'est-ce que tu fais ?» Mais dès que j'ai ôté la protection, dès qu'elle est sur les toilettes, dès qu'on va faire sa toilette intime, aujourd'hui, ça se passe bien. Au début, c'était un tout petit peu plus dur pour elle. Mais comme la maladie prend le dessus, eh bien, maman, comme elle ne sait pas que je suis son fils, ou très peu souvent, elle me voit peut-être comme un infirmier ou un aidant. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de problème. C'est juste le regard des autres qui est important. Sur les réseaux sociaux, j'ai eu affaire à bon nombre de personnes qui ne comprenaient pas qu'un garçon puisse changer, puisse laver sa maman. Et puis, j'ai une multitude de personnes qui me disent « mais vous êtes dangereux ».
Vous ne vous êtes pas posé la question, y compris pour votre belle-mère quelques années auparavant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser une personne dans un état de, eh bien, de sale.
J'explique souvent en messagerie privée, parce que je reçois beaucoup de messages privés, que la première fois que j'ai dû dénuder ma belle-mère, je l'ai retrouvé sur les toilettes avec des excréments un peu partout. Et vous ne pouvez pas laisser une personne. J'allais pas attendre que mon épouse rentre à la maison. Donc j'ai pris sur moi de prendre ma belle-mère, de la mettre sous la douche, de poser un drap devant elle pour la dénuder. Et à partir de l'instant où l'eau commençait à couler sur son corps, eh bien, j'ai vu le sourire sur cette personne qui voyait bien que j'étais là pour m'occuper d'elle.
S'agissant de la violence, parfois dans les vidéos, on voit votre maman faire des gestes brusques. Alors ça s'exprime aussi par des mots parfois, hein, qui sont assez virulents, assez violents, parfois agressifs. Et on vous entend quelquefois dire non, pas de violence, pas de violence. Ça c'est aussi une dérive liée à la maladie d'Alzheimer. Ces gestes de violence, tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui explose.
Très souvent. La maladie d'Alzheimer, chronologiquement, à un moment donné de la maladie, il y a des actes de violence qui sont forts. Et c'est lié à cette maladie. Et justement, j'essaye, au travers des vidéos, d'expliquer qu'il ne faut pas avoir peur de cette violence. Il faut juste expliquer à la personne, donc à la personne atteinte de cette pathologie, qu'il ne faut pas être violent. Et encore une fois, dans les messages que je reçois, beaucoup de personnes sont désemparées parce qu'elles ne savent pas réagir face à cette violence. Moi, je réagis systématiquement en essayant d'avoir un ton calme et en disant « Maman, pas de violence, maman, pas de violence. » Et tout de suite, eh bien, sa violence tombe parce que je l'affronte.
Marc Lucien, cette question des aidants, alors qui est un peu en filigrane, hein, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, elle est vraiment finalement prioritaire dans cette. Enfin, quand on vous entend, on se dit que pour prendre en charge la maladie d'Alzheimer, eh bien, il faut vraiment prendre en charge l'accompagnement des aidants. Vous tenez bon, vous êtes malheureusement très expérimenté dans l'accompagnement de ces personnes qui souffrent d'Alzheimer. C'est pas le cas de tout le monde. Vous êtes aussi aidé, vous n'êtes pas seul. On entend bien qu'il y a votre épouse aussi qui porte avec vous tout cela. Mais parmi tous les aidants, il y a des personnes qui sont désemparées, vous le dites, il y a des personnes qui sont seules, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de s'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs parents. Comment on fait, comment on peut faire pour accompagner ces aidants pour qu'eux-mêmes puissent être vraiment de bons accompagnateurs?
Alors, votre question est rigolote parce que hier, j'ai fait une vidéo où je posais justement cette question en disant aux followers, répondez-moi, que feriez-vous? Est-ce que vous garderiez votre maman à la maison? Est-ce que vous la mettriez en EHPAD? Il n'y aura aucun jugement sur les différents sites. Et j'ai eu une multitude de réponses où des gens m'ont donné leur avis. Et justement, il y a beaucoup de personnes qui sont désemparées parce qu'elles aimeraient garder leurs parents, mais elles travaillent, elles habitent loin. Donc il n'y a pas de jugement de valeur. Si on est aidant et qu'on peut le faire, je pense sincèrement que c'est mieux dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Si on ne peut pas, eh bien, il faut confier sa maman à un EHPAD ou à un organisme voire se faire aider par des aides-soignantes à domicile. Mais c'est un sujet qui est un sujet non seulement très difficile, très tabou, et qui peut détruire les familles. Parce qu'au sein de certaines familles, certaines personnes peuvent vouloir mettre une personne en EHPAD et l'autre non. Mmh. Et donc les témoignages que j'ai eus hier sur la vidéo que j'ai faite sont absolument bouleversants parce que des gens ont accepté de se livrer à cœur ouvert pour donner leur vision des choses.
Il y a une forme de culpabilité aussi chez les personnes qui sont aidants et qui voient qu'elles ne peuvent pas continuer, qu'elles n'ont pas la force. Il y a une culpabilité aussi, un sentiment d'abandonner son parent.
Elle est énorme, et je le vois d'autant plus dans les messages privés que je reçois, où des gens appellent à l'aide en me disant « tu es fort, tu réussis, moi je ne réussis pas », et j'essaie de déculpabiliser les gens. Parce qu'encore une fois, si la personne n'est pas capable de faire son deuil blanc, si elle n'est pas capable tout simplement d'être aidante, parce que tout le monde ne peut pas l'être, c'est comme ça, c'est la nature, eh bien il ne faut pas culpabiliser. Le tout, c'est de trouver la meilleure solution pour accompagner la personne atteinte d'Alzheimer sur ses derniers jours de la manière la plus digne possible.
Mmh. Un mot sur votre papa quand même, Marc. Votre papa, Nono, 96 ans, qui a travaillé dur dans sa vie. Ça aussi, on le comprend au fil des vidéos. Il était mineur de fond, je crois. Comment il vit les choses aujourd'hui? Puisque lui n'a pas la maladie d'Alzheimer, donc il a certainement conscience de la maladie dont souffre votre maman. Il voit ce que vous faites, vous et votre épouse, pour votre maman. Comment il vit les choses? Comment il les observe et comment il les vit?
Alors, premièrement, il est très triste. Il est très triste parce qu'il a vu l'évolution de la maladie avec ma belle-mère. Il la voyait très souvent. Donc, il sait quelle est la route que va suivre maman dans sa maladie. Donc, déjà, il est triste. Deuxièmement, il est triste parce que lui a zéro pathologie, malgré le fait d'avoir été mineur de fond pendant 37 ans ou 39 ans. Il n'a aucune pathologie. Et donc, il voit maman se dégrader petit à petit, et je vois dans ses yeux une profonde tristesse. Donc, c'est quelque chose de difficile à vivre aussi, parce que je dois tenter d'aider mon père de la meilleure des manières possibles, sachant qu'à 96 ans, ayant une motricité un petit peu plus réduite, il n'a qu'une seule envie, je le vois dans ses yeux, je le vois dans son expression, c'est de partir. Et en même temps, lui, il voit qu'il n'a pas de maladie. Donc c'est dur à vivre pour lui.
Oui, il se sent impuissant.
Ah, ils se sent complètement impuissant. Complètement impuissant.
Pour accompagner vos parents, vous avez mis en place tout un processus quotidiennement avec beaucoup de temps de présence auprès d'eux. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les coulisses? À quoi ressemblent vos journées, Marc? Je crois savoir que vous habitez assez proche géographiquement de chez vos parents et que vous avez des alertes chez vous pour voir si tout va bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les coulisses de votre quotidien?
Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer comment on a organisé l'appartement de mes parents. On a ôté quasiment tous les meubles. On a fait chambres séparées parce que quelqu'un qui a fait la maladie d'Alzheimer bouge souvent la nuit, parle fort et autres. J'ai sécurisé l'appartement en mettant soit dans les toilettes, soit dans la douche des garde-corps pour pouvoir se lever. Et surtout, on a mis en place un système de caméras. Il y a une caméra dans la chambre de papa, une caméra dans la chambre de maman et une caméra dans la chambre, dans le salon. Et j'ai ensuite deux caméras à détection de mouvement, une dans le couloir qui donne vue sur la chambre et vue sur les toilettes et une dans le salon. Ce qui fait que chaque fois que mes parents bougent, j'ai une alerte, je ne vais pas faire de pub, mais soit sur mon Apple Watch, soit sur mon iPhone. Et donc, je check l'alerte en deux secondes, je vois que tout se passe bien et puis je vaque à mes occupations. Ensuite, qu'est-ce que je fais avec mes parents en termes d'occupation? Eh bien, tous les matins, je vais chez mes parents pour procéder à la toilette de ma maman. Je donne le petit déjeuner à papa, à maman. Je discute un peu avec eux. Puis, je laisse tout seul. À midi, ça prend une heure et demie. À midi, une aide-soignante spécialisée dans la maladie d'Alzheimer vient, passe une heure avec eux, leur donne à manger, parfois douche papa ou parfois douche maman. Et moi, je retourne tous les après-midi vers 16h pour rester 2h, 2h30 avec mes parents. Je joue aux cartes avec papa. Je montre à maman les vidéos. On essaye de rire. Et
Elle chante
très souvent. Et puis voilà mon quotidien. Ma quotidien, somme toute simple. J'ai la chance d'habiter à moins d'une minute en voiture de chez mes parents. Et quand je m'absente ou quand je vais jouer au golf parce que c'est ma passion et ça me permet de m'évacuer, d'évacuer dans ma tête un certain nombre de tracas, eh bien, mon épouse est présente et peut se déplacer sans aucun problème.
Quand vous dites un certain nombre de tracas, qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui? Oui, votre papa est très âgé, votre maman souffre de cette maladie d'Alzheimer, mais quand on voit les vidéos, on se dit, voilà, ils sont bien accompagnés, tout va bien. Qu'est-ce qui vous inquiète?
La première chose, c'est d'arriver un matin et de voir papa mort dans son lit, parce que je pense que c'est ce qui arrivera un jour, et c'est comme ça que les choses se passeront. Deuxièmement, c'est de voir la dégradation de la maladie, parce que je sais où cette maladie va amener maman, et je sais les soucis de motricité et autres qu'elle va devoir gérer et qu'on gérera au quotidien avec mon épouse.
Vous voulez dire que vous avez peur de ne plus pouvoir gérer à un moment? C'est ça que vous voulez dire?
Non, je sais que je serai capable de gérer, mais je sais la charge de travail que cela comportera à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire une présence H24, soit de mon épouse, soit de moi.
Alors, du coup, ça nous fait revenir à une question liée à celle des aidants, hein, mais je l'ai dit, c'est vraiment le sujet des aidants est vraiment en filigrane de tout ce qu'on dit là. Ça veut dire une présence H24, ça veut dire quand même que pour être pleinement aidant, il faut être disponible, il faut pouvoir être disponible. Vous ne travaillez plus, vous n'êtes plus en activité, mais cela, votre engagement auprès de vos parents n'aurait pas été possible si vous travailliez encore.
Si, parce que en fait, oui, tout dépend du travail. Quand je m'occupais de ma belle-mère, j'avais un travail de dirigeant d'entreprise, et donc mon épouse avait un travail en libéral. Et donc, on arrivait à s'organiser pour qu'il y ait tout le temps quelqu'un à la maison avec ma belle-mère. Donc, ce n'était pas un souci. Mais effectivement, dès l'instant où vous travaillez et que la maladie a pris un pas où la personne ne peut plus vraiment bouger toute seule, parce que maman est capable de se lever aujourd'hui, d'aller aux toilettes, d'abaisser sa protection, de faire ses besoins, de se rhabiller et de repartir dans le salon. Elle est capable de le faire sans aucun problème. Dans quelques temps, elle ne sera plus capable de le faire. C'est la maladie qui prendra le dessus. Et à partir de cet instant-là, si vous n'avez pas une présence à la maison, vous ne pouvez pas vous occuper et garder une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est pas possible.
Mmh. Aujourd'hui, vous vous dites que vous en serez capable.
Nous, ce n'est pas notre cas parce que et en plus, c'est notre volonté. Donc, on arrivera à s'organiser avec mon épouse.
C'est pour ça que vous faites les vidéos, Marc? Parce que, au fond, je l'ai dit en introduction, 1 400 000 personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, ça veut dire au moins le double de personnes qui sont impactées parce qu'elles sont proches de ces souffrants. Quel message vous voulez passer à ces personnes-là, en fait? Est-ce que c'est pour ça que vous faites les vidéos? Est-ce que c'est pour transmettre tout ce que vous m'avez dit là à l'instant? Quel message vous voulez faire passer, en fait?
Alors, tout d'abord, je vous reprends sur un chiffre. C'est bien 1 400 000, mais dans mon esprit, ça touche beaucoup plus de familles. Parce que si on prend une personne atteinte d'Alzheimer, oui, elle a des frères, des sœurs, des enfants, bien des sûr, oncles et autres. Ça représente dans ma tête, dans mon esprit, plus de 20% de la population qui a au moins une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Mmh. Et donc le but que je veux avec ces vidéos, c'est non seulement de sensibiliser les gens sur le fait qu'il est possible de dialoguer, de s'occuper au quotidien d'une personne atteinte d'Alzheimer dans les limites de ses capacités. La deuxième chose, c'est de faire passer des messages à une jeune population. J'ai démarré sur TikTok. On critique souvent TikTok, mais j'ai très très peu de messages malveillants sur TikTok, et j'ai un nombre impressionnant de messages privés de jeunes qui me disent comprendre la maladie, découvrir la maladie, et faire en sorte plus tard d'avoir la même démarche avec leurs parents. Donc s'il y a cette démarche de sensibilisation, le conte Stupio Spirit aura eu une réelle valeur ajoutée. C'est ça le but, c'est parler
vous
de la maladie.
Vous attendiez à ce que des jeunes soient intéressés par vos vidéos et vous suivent?
Non, pas du tout. Je pensais vraiment, vous savez, vous avez des stats sur tous les réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok et autres, où vous pouvez voir les tranches de personnes qui sont intéressées. Et moi, je m'attendais à ce que ce soit 45 et plus. Eh bien, c'est faux. C'est pas du tout cette proportion-là qui regarde, qui like et qui commente. C'est vraiment une tranche 15-45 ans.
Ah oui, donc un public vraiment très jeune, quoi.
Qui se
projette ou qui prend des conseils peut-être pour l'avenir, quoi.
J'ai le sentiment. Et si c'est le cas, eh bien, le message aura servi à quelque chose.
On peut vous suivre sur Instagram et TikTok sous le compte Scipio Spirit avec des vidéos que vous publiez donc quasiment quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. Hein.
Je poste entre 2 à 3 vidéos par jour. Généralement, ces réseaux fonctionnent de la manière suivante. Le matin, les gens partent au travail, regardent, donc c'est entre 7h et 8h. À midi, ils prennent leur pause, c'est entre midi et 13h. Et le soir, ils rentrent, c'est entre 18h et 19h. Voilà.
Voilà, et j'ajoute pour terminer, Marc Lucian, que vous prenez vraiment du temps chaque soir pour répondre aux messages que vous recevez en messagerie privée grâce à ces réseaux sociaux.
Un peu plus de 2 heures par soir, c'est vrai.
Voilà, et ça c'est important aussi de le dire, c'est que vous avez à cœur vraiment de répondre à tous les messages. D'ailleurs, je crois, on peut terminer par ça, Marc Lucian, vous pouvez nous en dire un mot, que vous allez faire donner des conférences et vous déplacer dans certains lieux pour évoquer tout ça, cette maladie d'Alzheimer, le deuil blanc, le rôle des aidants.
Oui, j'ai la chance d'avoir du personnel médical qui m'envoie des messages de bienveillance, des responsables d'EHPAD et autres. Et j'ai au mois d'octobre une réunion prévue avec un EHPAD à Montpellier, ainsi qu'une conférence ce soir organisée par la ville de Montpellier sur le thème du deuil blanc. Je dois partir également dans le nord de la France faire exactement la même chose. J'ai ensuite des écoles d'aidants qui me demandent d'intervenir pour parler de mon expérience auprès de leurs élèves, des radios comme la vôtre qui m'appellent, sont interpellés par la démarche et veulent qu'on en parle. Et tout ça cumulé, c'est qu'on parlera de plus en plus d'Alzheimer, de plus en plus du rôle des aidants, de plus en plus de la manière dont un aidant peut s'en sortir. Et ce sera gagné pour tout le monde.
Merci beaucoup Marc Lucian pour vos réponses. Merci pour votre disponibilité. Puis très bonne continuation donc auprès de vos parents, Nono et Nona. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9. L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
À Montrégeau, 94.1.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
La première ministre thaïlandaise destituée par la Cour constitutionnelle.